Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Showtime. Aujourd'hui, je vous présenterai quelques-unes des dernières actus ciné, mon avis sur Dragon Ball Z Battle of Gods, les sorties DVD de la semaine et l'instant focus où je vous parlerai de la série American Horror Story. Avant de commencer l'actu ciné, deux news. La bonne, la saga Metal Gear Solid a fêté il y a peu ses 15 ans en France. Bon anniversaire Metal Gear Solid! Et la mauvaise, le 24 février de cette année nous a quitté Harold Ramis, l'acteur réalisateur de Un jour sans fin, connu aussi pour son rôle du docteur Egon Spengler dans la saga SOS Fantôme, nous a quitté suite à des complications d'une maladie. Voici ma façon de lui rendre hommage avec la célèbre musique de Ray Parker Jr. intitulée Ghostbusters.
Louder! Ghostbusters!
Who you gonna call?
Ghostbusters!
La disparition de Harold Ramis risque de retarder encore plus, malheureusement, la sortie assez attendue quand même du Ghostbusters 3, et à ce rythme, il va vite ressembler à une arlésienne. Enfin, quoi qu'il en soit, repose en paix Harold Ramis. Allez, l'actu ciné avec un peu plus de gaieté. Je vous en parlais la semaine dernière, le casting du reboot des Fantastic Four, les 4 Fantastiques, est quasi officiel. Entendez par là qu'une annonce de la Fox est attendue pour confirmer le tout. Les 4 Fantastiques, en soi, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm, seraient incarnés respectivement par Miles Teller, Katamara, Michael B. Jordan et Jamie Bell. Le film, qui sera réalisé par Josh Trank, est prévu pour une sortie sur les écrans le 19 juin 2015. Ça y est, nous connaissons l'interprète de Constantine dans la série du même nom. John Constantine, le Hellblazer, sera incarné par Matt Ryan. L'acteur britannique a prêté dernièrement sa voix et ses mouvements pour la motion capture à Edward Kenway, personnage principal de Assassin's Creed 4 Black Flag. Bon point, Matt Ryan est britannique tout comme Constantine. Il n'aura pas besoin de forcer son accent. Maintenant, attendons les premières images pour se faire un premier avis quant à ce choix. Mais blond avec un trench coat et la clope au bec, ça pourrait le faire. On apprend également que la première saison se déroulerait principalement à l'asile de Ravenscar, délocalisé pour l'occasion à New York. Et aussi, l'antagoniste que Constantine affronterait tout du long de la saison sera Papa Midnight. Constantine, une série que je vais suivre de près. Coup de tonnerre ! Pas sur les tropiques, mais sur la toile. La chaîne NBC a annoncé une mini-série du nom de Heroes Reborn, prévue pour 2015 avec aux commandes Tim Kring, le créateur de la série d'origine. Des rumeurs quant à une suite avaient circulé sur Internet l'année dernière. Les choses se confirment aujourd'hui. Aucune information de disponible concernant le scénario. La seule indication donnée est que l'on pourrait retrouver des membres du casting original de la série. Pour ma part, tout ce que je souhaite, c'est une conclusion honnête à Heroes, dont la fin laissée sur sa fin. Nouvelle intéressante que voici, du moins pour ceux qui sont fans de Veronica Mars. Le film qui marque le retour de Kristen Bell dans le rôle qu'il a fait connaître sortira le 14 mars dans pas moins de 270 salles outre-Atlantique. Et il sortira aussi en vidéo à la demande. C'est la première fois qu'un film est distribué ainsi. Et c'est pas fini! Cette sortie en VOD est une bonne nouvelle pour les fans français, car oui, Veronica Mars, le film, sortira en VOD chez nous le 14 mars. Si ça fait pas plaisir, ça. Conjuring 2 et son spin-off Annabelle trouvent une date de sortie. C'est le 23 octobre que vous pourrez trembler à nouveau devant la saga initiée par James Wan. Si le nom du réalisateur du second opus est toujours inconnu, il ne devrait pas tarder à se faire connaître, car octobre va vite arriver. Tandis que Annabelle, le spin-off consacré à la poupée enfermée chez les Warren, sera réalisé par John R. Leonetti et il sortira le 3 octobre, quelques jours avant Conjuring 2. Le mois d'octobre sera sous le signe de l'horreur. Et dans la news de dernière minute, trop news, franchement, jamais vu une semaine aussi chargée en news. Je passe à la news de dernière minute pour cette fois. Allez, c'est parti pour l'avis sur Dragon Ball Z Battle of Gods. Que de souvenirs, Shadla et Chala. Retour en enfance pour cet avis, Dragon Ball Z Battle of Gods, le dernier film d'animation du célèbre manga, sorti en salle au Japon le 30 mars 2013. Film réalisé par Masahiro Hosoda. Akira Toriyama, le père de Dragon Ball, comprenez par là son auteur, a également supervisé le film et a coécrit le scénario. Bon, le casting, c'est les seiyuu d'origine de la série. Les seiyuu, c'est le nom donné aux doubleurs japonais. Deux nouvelles voix rejoignent la grande famille Dragon Ball. Koichi Yamadera et Bills, et Masakazu Morita et Vice. Voici le synopsis du film. La menace de Boo est loin, les années ont passé, la paix est installée. Quelque part dans l'univers, une force s'éveille. Bill, dieu de la destruction, revient à lui après un sommeil de 39 ans. Des années plus tôt, le poisson oracle lui a prédit qu'il ferait face, dans 39 ans, à un adversaire à la puissance considérable. Voilà le pourquoi de ce réveil prématuré. Weiss, son compère, l'informe des événements qui sont survenus pendant le sommeil du dieu de la destruction. C'est ainsi que Bill apprend que Freezer a été défait par un Saiyan. Ce Saiyan serait-il ce fameux ennemi dont le poisson oracle avait prédit à Bill l'existence ? Cet ennemi et le Super Saiyan God qu'il a vu en rêve feraient-ils qu'un ? Afin de répondre à ces questions, Bill part à la recherche du Saiyan qui porte le nom de Sangoku. Bon, j'ai essayé de faire un petit synopsis sympa avec un peu de tension, suspense. Bon, c'est pas trop entendu à ma voix, mais le suspense est là quand même. Je sais pas si ça a marché, mais j'ai travaillé un petit moment dessus. Enfin bref. Au revoir Dragon Ball GT et son histoire qui laisse à désirer. Bonjour Battle of Gods, le premier film à s'inscrire officiellement dans l'histoire du manga papier. Le film commence par l'éveil de Bills, le dieu de la destruction. Les seigneurs Kaioshin sont assez inquiets par cet événement. Ils craignent Bill et craignent le pire. Après ce moment qui augure le pire pour la suite, l'action se tourne vers Bills et là, ben, on découvre Bill, une sorte de chat qui fait penser au dieu égyptien et qui marche, parle. Et son éveil donne le ton. On est bien dans l'univers Dragon Ball Z. Hein. On comprend de suite à quel type de personnage on aura affaire. Et pour moi, c'est un des méchants, si ce n'est le méchant le plus cool de tout Dragon Ball Z. Je dis bien Z, la suite de Dragon Ball. Faut faire la différence. Dragon Ball Z, c'est ce qui commence avec l'arrivée des Saiyans sur Terre, etc. En tout cas, Bill insuffle un vent de fraîcheur aux méchants de Dragon Ball Z, il n'y a pas à dire. Enfin, ça change des méchants qui ne pensent qu'à détruire pour détruire. Si Bills vient détruire, c'est car c'est le dieu de la destruction, et deux, car quelque part, c'est son devoir de dieu. Oui, voilà, hein, il le fait pas de manière méchante. Enfin, le personnage, vraiment, il est cool. Il n'est pas foncièrement mauvais, il est même sympathique. Vient ensuite sa quête du fameux Super Saiyan God. Pour cela, il part à la recherche de Sangoku qui a défait Freezer. Une quête qui l'amènera jusqu'à la Terre. Après, je dis plus rien, au risque de trop en dire, de spoiler. Disons-le franchement, lorsque l'on regarde le film, on sourit, on rit même. Peut-être trop, car l'humour tient une place importante dans ce film d'animation. Mais quelque part, c'est ce qu'était Dragon Ball à la base, une aventure imprégnée d'humour. Avant que sa suite, Dragon Ball Z ne devienne un enchaînement de combats interminables. Pour autant, les combats ne sont pas en reste. Et lorsque combats il y a, ils sont spectaculaires. Surtout le combat final, superbement animé. L'animation, parlons-en. Le film a une qualité d'animation d'image irréprochable. Il faut le dire, c'est le premier film japonais qui sort au format IMAX. En gros, la qualité d'image est au rendez-vous. On peut quand même reprocher les arrière-plans 3D lors de certaines séquences du combat final. Ça rendait assez moyen, mais ça ne nuisait pas réellement à la fluidité de l'action. Du côté musical, c'est un des points du film sur lequel on peut tiquer. Il n'y a pas de thème transcendant qui renoue avec les célèbres musiques de l'animé. D'accord, on retrouve Chala et Chala, seulement c'est une reprise du groupe Flow. Bien que sympathique, je trouve qu'elle n'atteint pas les sommets de l'original. En plus de la musique, on peut reprocher certaines choses au film, mais ça serait chipoté pour certains points. Le seul regret que l'on peut avoir est vis-à-vis de la transformation Super Saiyan God qui n'est pas très inspirée, hein, ils auraient pu avoir de meilleures idées quant à celle-ci quand même. Allez, c'est parti pour l'instant 4 consciences, car même si les points positifs peuvent être nombreux, il n'est pas impossible que je descende le film. En plus, le retour de Dragon Ball Z, tout simplement, le plaisir de retrouver Goku et compagnie dans une nouvelle aventure. Une histoire prenante qui laisse une porte ouverte à une suite. Des caméos appréciables, Bills, sûrement parmi les meilleurs méchants de Dragon Ball Z. Enfin, si on peut le qualifier de méchant, car il l'est pas vraiment. Et une nouvelle transformation, le Super Saiyan God, ainsi que l'animation de qualité. En négatif, peut-être trop tourné sur l'humour. Des musiques anecdotiques, Vegeta qui ravale sa fierté, ça s'ancre bien dans le scénario, mais quand même, Vegeta c'est le symbole de la fierté. Les combats secondaires qui sont trop vite expédiés, et bien sûr la transformation Super Saiyan God qui n'est pas très inspirée. En conclusion, tout fan de l'œuvre d'Akira Toriyama se doit de voir au moins une fois Dragon Ball Z Battle of Gods. Ce n'est pas le film d'animation du siècle, mais il n'en reste pas moins un film de qualité. Surtout qu'il s'inscrit parfaitement dans la mythologie Dragon Ball Z. Ce qui fait plaisir aussi, c'est la porte ouverte que laisse la fin du film. On en demande presque à voir une suite arriver dans les années à venir. Une suite qui permettrait d'effacer Dragon Ball GT des mémoires au profit d'une aventure plus dans l'esprit du manga d'origine d'Akira Toriyama. En plus, il pourrait bien revenir pour superviser à nouveau le tout. Allez, je vous laisse avec ce retour dans le passé, avec la musique Chala et Chala de Hironobu Kageyama.
ひろがるパノラマ火砲蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいね
Allez, les sorties DVD de la semaine. Cette semaine, dans les bacs, vous pourrez trouver surtout des séries. Et oui, car côté ciné en 2v2, il n'y a que deux sorties majeures. D'un côté, la stratégie Ender de Gavin Hood avec Harrison Ford, Asa Butterfield, Hayley Steinfeld, Ben Kingsley. Et de l'autre, 9 mois ferme de et avec Albert Dupontel. Et pour ce qui est des séries, vous aurez droit à la saison 2 de Continuum, la saison 2 de Once Upon a Time, elle n'est pas déjà sortie, elle, je croyais l'avoir déjà dit, enfin bref. La saison 3 de Braco, la saison 4 de Clem, et la saison 7 de Futurama, donc surtout des séries. Allez, instant focus sur une série, American Horror Story. American Horror Story, série de Ryan Murphy et Brad Falchuk. Je l'ai bien prononcé, Brad Falchuk, enfin bref. American Horror Story est diffusée depuis octobre 2011 aux USA. Cette série est particulière dans le sens où chaque saison propose une histoire différente. Si vous manquez une saison, rien de grave, la saison suivante vous est accessible. Et si plus tard vous souhaitez voir la saison passée, rien ne vous en empêche, vous n'aurez pas l'esprit embrouillé. La saison 1 se concentre sur la famille Harmon. Désireux de refaire leur vie, les Harmon s'installent à Los Angeles. Ils apprennent rapidement que leur nouvelle résidence a été le lieu d'atrocités. Des événements inexpliqués se produisent autour d'eux. Ne parlons pas de leur voisinage assez inquiétant. Ce départ à zéro se transforme en départ pour l'enfer. La saison 2 prend place dans l'asile psychiatrique Briarcliff en 1964. Plusieurs personnages sont au cœur de l'intrigue qui mêle les genres. C'est principalement le mystère entourant le supposé tueur Bloody Face qui servira de fil conducteur tout du long de la saison. Le suspect présumé, Kit Walker, est enfermé dans l'asile géré par Sœur Jude. Une journaliste, Lana Winters, qui enquêtait sur l'établissement, se voit internée contre son gré. Rapidement, Kit et Lana vont se retrouver pris dans la tourmente qui habite Briarcliff. La saison 3, qui a terminé il y a peu sa diffusion outre-Atlantique, se déroule de nos jours et raconte l'histoire des sorcières d'Amérique. Les sorcières sont malmenées, en voie de disparition. Des jeunes filles pourvues de pouvoir sont envoyées dans une école spéciale. Elles y apprennent à se contrôler, se protéger. Zoé est l'une d'entre elles. Son pouvoir vient tout juste de s'activer. Un nouveau monde s'ouvre à elle, un monde où la sorcellerie et le vaudou ne font pas bon ménage. Au casting, nous retrouvons d'une saison à l'autre les mêmes acteurs, plus ou moins. Jessica Lange est la récurrente des trois saisons avec Evan Peters. Teysa Farminga n'apparaît que dans les saisons 1 et 3. Zachary Quinto, lui, n'est présent que dans la 1 et la 2. On retrouve les mêmes visages, mais pas forcément d'une saison à l'autre. Ce qui peut paraître déroutant, c'est de ne pas les voir incarner systématiquement le même personnage comme dans une série lambda. Mais passé les 2-3 premiers épisodes de la saison, on s'y fait vite. Une nouvelle histoire, à chaque saison, une idée qui fait preuve. Si les scénaristes avaient tiré sur la ficelle de l'intrigue de la saison 1, on aurait vite fini par tourner en rond, et ce, dès la seconde saison. Heureusement, prendre le parti de une saison, une histoire, porte ses fruits. Et c'est sûrement là l'une des forces de la série. À noter que les saisons ne durent que 12 épisodes. C'est un chiffre honorable et un système qui tendrait à se développer pour d'autres séries dans les années à venir. Car peu d'épisodes, il y a aussi peu de longueur. Les scénaristes vont à l'essentiel, disent ce qu'ils ont à dire. Pas besoin d'étirer et d'éterniser les intrigues. Du coup, les fausses notes sont peu présentes. Une qualité d'écriture indéniable pour cette série. Les personnages sont glauques, sombres et surtout humains. American Horror Story, c'est une sorte de film d'horreur en version longue. Les personnages y sont superbement travaillés, de même que le background propre à chaque histoire. Et à chaque saison, on gagne en noirceur. Si vous vous attardez sur la une, que vous la trouvez flippante, stressante, attendez de voir la 2. Elle bat tous les records niveau noirceur. La 3 niveau bizarrerie n'est pas en reste par rapport à ses grandes sœurs. C'est triste, j'aimerais en dire davantage sur cette série qui pour moi m'a marqué. Elle fait partie de mes coups de cœur niveau série, toutes confondues. Mais le temps m'est compté, donc je m'en vais vous laisser sur ce générique qui reste, tout comme American Story, gravé dans les esprits. C'était American Horror Story Theme de César Davila Irizarry et Charlie Clouser. Cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Merci pour déjà votre soutien. Et n'hésitez pas à faire part de vos suggestions et de vos avis pour la suite. en vous remerciant pour m'avoir écouté. De belles écoutes pour l'émission de la semaine dernière encore, enfin merci beaucoup. Et aussi un grand merci aux personnes de la technique Marie et à Radio Larzac pour l'enregistrement. Je vous dis à la prochaine !